France Culture. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Nouvel épisode ce matin de notre série sur l'intime et la pudeur. Il est temps d'évoquer un philosophe qui a véritablement consacré l'intimité, faisant d'elle le dernier refuge du bonheur, Jean-Jacques Rousseau. Intimité. Le mot est fréquemment prononcé par Rousseau pour évoquer le bonheur du quotidien avec une femme aimée, Madame de Varans, à la fin des années 1730, puis plus tard Thérèse, devenue son épouse. Une intimité dont Rousseau dit qu'au fond, elle ne saurait être décrite. Tenter de décrire serait peut-être même ennuyeux, assure-t-il. Succession de petits gestes, de promenades, de goûters, de rituels apparemment sans surprise, délicieux dans leur répétition même. Conceptuellement, Rousseau construit la notion d'intimité, si l'on peut dire, contre la société qui aliène, contre la société qui empêche d'être soi-même et attise l'envie de dominer et le goût des inégalités. L'intimité, c'est peut-être le seul espace-temps où quelque chose d'un ancien état de nature pourrait revenir, la douceur du rapport à son prochain, sans rivalité. Ce qui soulève tout de même beaucoup de questions. Rousseau n'étouffe-t-il pas un peu dans l'idéal d'une fusion parfaite, tout ce qui demeure constitutif de l'altérité, en amour aussi, la possibilité du désaccord, voire du conflit. Mais encore n'est-il pas tiraillé souvent entre d'un côté l'envie de dire que l'intimité véritable est toute simple et permet de tout dire et de tout faire sans honte, rien finalement n'exigeant pudeur, le mot pudor en latin signifiant honte, et de l'autre côté le souci de rappeler que dans l'intimité il demeure malgré tout du cachet à préserver, des jardins secrets, beaucoup de pudeur, sans quoi il n'y aurait que débauche décevante. Difficile Rousseau, torturé par ses idéaux mêmes. Bonjour Quentin Biasiolo.
Bonjour, merci de l'invitation.
Mais je vous en prie, vous avez fait votre thèse de philosophie sur Rousseau et Proust. Vous nous parlerez d'ailleurs un peu peut-être de leurs différences. Et vous êtes professeur de philosophie en classe préparatoire au lycée Sainte-Geneviève de Versailles. Vous venez de faire paraître il y a quelques jours aux presses de Sorbonne Université « Mon cœur est dans ta main ». L'amour à l'épreuve du temps. Et bonjour Christophe Martin.
Bonjour.
Vous êtes professeur de littérature française du XVIIIe siècle à Sorbonne Université. Parmi vos travaux nombreux, je citerai directement relié à notre émission de ce matin sur Rousseau et l'intimité amoureuse, votre ouvrage « La philosophie des amants », essai sur Julie ou la nouvelle Héloïse, paru en 2021 aux presses de Sorbonne Université. Pour commencer, un grand nom de l'analyse littéraire, un grand connaisseur de Rousseau, voici un propos de Jean Starobinski.
Vers la fin de sa vie, Rousseau était convaincu de sa propre transparence intérieure. Il était convaincu de posséder la transparence du cristal, de s'offrir tel qu'il était aux yeux de tous, et en même temps d'être monstrueusement méconnu, d'être même travesti par le regard des autres, d'être travesti en monstre par ceux qui le regardaient. Il y a donc à la fois chez lui la conviction première et spontanée de la pureté, de l'ingénuité, de l'innocence la plus complète, et d'autre part le sentiment d'une hostilité dressée contre lui, dressée massivement contre lui. Et si son œuvre autobiographique est si abondante, c'est qu'il n'en a jamais fini de donner aux autres une preuve dont il sait que les autres n'en veulent pas.
Jean Starobinski est l'auteur d'un livre fameux sur Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, La transparence et l'obstacle, qui date de 1971. Christophe Martin, est-ce que ce que dit là dans ce livre et dans l'extrait sonore que nous venons d'entendre Jean Starobinski signifie que l'intime est créé par Rousseau en contre toujours? Au fond, c'est véritablement l'idée du refuge. Il faut l'obstacle pour conquérir la transparence, il faut l'aliénation sociale pour conquérir un bonheur intime.
Oui, c'est tout à fait certain, et ce que dit là Starobinski est très beau et très juste, bien sûr. Peut-être que ce qu'on peut dire, le succès de la formule de Starobinski et de son livre a peut-être mis l'accent très fortement sur le rêve de transparence qui est indiscutable, hein, qui existe indiscutablement, mais qui, comme vous le soulignez, a aussi une dimension, une exigence, un impératif d'intimité. La transparence, ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas devant n'importe qui. Alors, on pourrait dire, mais alors pourquoi avoir écrit les confessions ? Mais tout de même, déjà préciser que les confessions ne sont pas publiées de son vivant. Donc, c'est déjà et il le dit, hein, je pourrais me livrer au lecteur, sachant que c'est un dévoilement, une sorte d'exhibition posthume à bien des égards. Même s'il faut préciser aussi qu'il y a eu des lectures publiques, hein, quelques lectures publiques, mais d'extraits et vraiment devant un public très choisi.
Mais pardon, je continue un tout petit peu sur votre lancée, je prolonge la question. On retrouve le problème que nous avons évoqué hier avec Augustin et les confessions, et d'une façon générale la notion de confession dans la tradition chrétienne, surtout catholique, ce qui est que évoquer l'intime, c'est aussi le tuer, c'est-à-dire l'extimer. Et donc la transparence, comme idéal rousseauiste, serait-elle un idéal qui tuerait même l'objet de la transparence ? Il n'y a plus d'intime si tout est transparent. Comment Rousseau travaille-t-il ce problème ?
Ah, c'est une question absolument centrale, qui en effet, en un sens, est héritée d'une longue tradition, comme vous le rappelez, hein, une tradition augustinienne, mais qui est tout de même déplacée, puisque c'est pas seulement ce qu'il s'agit d'avouer, c'est pas seulement l'homme pécheur d'avant la conversion, c'est vraiment c'était le modèle augustinien, disons, hein, pour simplifier, alors que là, il ne s'agit pas de dire que les fautes qu'il faut avouer, c'était le temps d'avant, elles sont bien constitutives de l'être qu'est Rousseau, il n'y a pas de conversion absolue, hein. Et en outre, ce que vous mettez en lumière de manière très juste, c'est la difficulté, l'extrême difficulté. On a beaucoup dit, Rousseau est une espèce d'exhibitionniste qui dévoile tout sans aucune pudeur. Et on a pu associer impudeur et impudence, par exemple, hein, de dire c'est vraiment totalement. C'est la réaction de Voltaire, par exemple. Hein, on peut supposer, par exemple, que quand Voltaire écrit son autobiographie, qui désormais est complètement oubliée d'ailleurs, hein, qui s'appelle Commentaire historique sur l'auteur de La Henriade. Il l'écrit à la troisième personne et il efface tout ce qu'il juge totalement indécent dans les confessions de Rousseau, dont il avait dû avoir des échos, même s'il l'a certainement, il n'a pas pu la lire puisque ce n'était pas publié. Mais c'est quelque chose de... dire cela, ça serait complètement manquer l'extraordinaire dialectique qui existe chez Rousseau entre le souci de la transparence et, en effet, comme vous l'indiquiez, la nécessité de préserver l'intimité, tout dire, mais en même temps, ni dire, je dirais, le dire à moitié, laisser entendre. Il y a une dialectique du tout dire et ne pas tout dire qui est constitutive des confessions.
Et peut-être que c'est exagéré de dire que raconter l'intime, c'est le tuer. J'ai orienté la question comme cela, c'était peut-être exagéré. On peut aussi dire l'intime de manière assez transparente, sans forcément l'abolir.
Sans l'abolir du tout, parce que je crois que c'est aussi un appel au lecteur, c'est faire en sorte que le dire l'intime puisse susciter une écoute. Il faut, dans l'intimité de la lecture, parce que c'est quand même aussi, il l'a imaginé ensuite comme un texte qui allait être lu, il y a eu des lectures publiques, mais encore une fois, elles sont vraiment très ponctuelles, mais l'intimité de la lecture va permettre au lecteur d'entendre ce que dit Rousseau. Donc vous aviez évoqué aussi cette idée de l'intime comme quelque chose qui fait entendre aussi peut-être une voix de la nature d'avant la corruption, et il s'agit de faire résonner aussi cela chez le lecteur.
Alors à vous, Quentin Biasiolo, vous êtes un jeune chercheur, vous vous attelez à cette question du rapport à l'intime et à la transparence chez Rousseau, question déjà très travaillée. Il me semble, mais vous me corrigerez, que dans votre travail, vous vous penchez sur la question du perfectionnement de soi, qui, à vrai dire, est une grande question augustinienne, elle aussi. Hier, chez Augustin, on a beaucoup évoqué, dans les confessions d'Augustin, l'idée que, en se confessant, qui est d'ailleurs un terme très complexe chez Augustin, je renvoie à l'émission, on devient meilleur. Est-ce que c'est la même chose chez Rousseau ?
Non, c'est pas tout à fait la même chose parce que, au fond, ce que Rousseau essaye de, enfin, le concept auquel vous faites allusion là, c'est le concept de perfectibilité, qui est forgé par Rousseau au milieu du XVIIIe siècle, même si l'idée était déjà dans l'air du temps.
Alors c'est pas le mot qu'il emploie, c'est vous qui l'employez.
La perfectibilité.
Il emploie ce mot.
Ah oui, absolument.
Dans
le second discours sur l'origine,
oui,
et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, Rousseau invente le mot, même si l'idée était déjà dans l'air du temps,
oui.
Et c'est un concept qui vient juste après la description du concept de liberté, mmh. Et Rousseau fait de la perfectibilité un concept qui, au fond, pour lui, définit mieux l'homme que tous les autres concepts que la tradition a déjà convoqués. Mieux que la liberté, mieux que la raison, parce que pour Rousseau, il n'y a que l'homme qui soit capable d'un développement de soi indéfini. Il ne dit pas infini, il dit indéfini, de sorte qu'au fond, personne ne pourra à l'avance, a priori, poser un terme au-delà duquel on ne pourrait pas aller. Et donc, pour Rousseau, la perfectibilité, c'est quelque chose de tout simple. C'est la faculté que nous avons de développer toutes nos facultés. La faculté que nous avons de développer tous nos talents, d'exercer nos talents. Et alors là, il y a deux choses possibles, et deux voies possibles. Idéalement, et c'est la voie ouverte par le contrat social, et qui est en même temps tout de suite un peu refermée, chapitre 8 du livre 1 du contrat social, idéalement, c'est le contrat social et la vie politique et la communauté politique qui devraient activer au mieux les ressources de la perfectibilité, permettre à chaque individu de développer sa raison, de développer ses facultés et de devenir, comme on le dit aujourd'hui, au fond, la meilleure version de soi-même. Mais Rousseau considère que cet état social idéal-là, nous n'y vivons pas. Et c'est le point de départ de l'Émile. Peut-on encore envisager une éducation favorable dans un état social, non pas idéal, mais corrompu ? Et alors, Rousseau va suggérer, dans plusieurs textes, c'est le cas dans certaines pages de La Nouvelle Héloïse, où il y a quand même une sorte de petite utopie, sinon politique, en tout cas sociale, c'est le cas dans certains passages des Confessions, et notamment dans l'Idylle des Charmettes, avec Madame de Varins, que lorsque la politique échoue à développer les facultés de l'individu, et lorsque, puisque la perfectibilité, c'est la faculté de devenir meilleur, mais aussi de devenir pire, et de tomber, dit Rousseau, en deçà de notre état de nature originaire. Alors peut-être que le rapport intime, et à voir si c'est exclusivement amoureux, ou si c'est parfois amical, même si dans l'amitié il y a des résidus problématiques de la vie sociale, c'est à cette vie intime-là qu'il revient d'activer les ressources de la perfectibilité.
Alors je suis contente que vous abordiez tout de suite le problème de l'amitié, parce que j'ai cru comprendre que dans votre lecture, c'est beaucoup moins important que l'amour, que l'intimité est moins grande et il y a plus de méfiance chez Rousseau. Mais vous savez qu'il existe d'autres travaux sur le plan de la philosophie politique qui considèrent que l'amitié est un enjeu majeur chez Rousseau.
Sûr.
Je pense par exemple au livre de David Munich sur La Boétie et Rousseau, l'enjeu de l'amitié qui est très important dans le discours sur la servitude volontaire de la Boétie et que finalement, pour contrer justement la servitude volontaire, et certains disent que c'est très important chez Rousseau aussi.
Oui, oui, bien sûr. D'ailleurs, La Nouvelle Héloïse aussi déploie certaines pages extrêmement belles sur l'amitié et en font de l'amitié là aussi une sorte de refuge. Ce qu'on pourrait dire, c'est que, et là, le point de départ avec Starobinski était bon aussi, parce que, justement, ce que dit Starobinski à ce moment-là, fait au fond écho au dernier texte de la fin de vie de Rousseau, à savoir les lettres à Malesherbes et les rêveries du premier solitaire, la dixième mise à part, et où, à ce moment-là, quand Starobinski décrit l'état d'esprit de Rousseau, Rousseau a été trahi dans ses amitiés et déçu dans ses amours. Donc, au fond, pour lui, là, il est réuni dans une seule et même déception, à savoir qu'il n'y a pas finalement trouvé son compte. Et c'est pour ça qu'il y a un repli solitaire où les rêveries seront adressées qu'à lui-même et qu'à Dieu. Mais si on voulait peut-être marquer très rapidement la différence entre amour et amitié, on pourrait faire l'hypothèse qu'il reste dans l'amitié un peu plus de reliquats sociaux que dans l'amour, je veux dire par là, que dans l'amitié, il reste quand même des rapports d'amour propre, une certaine forme de logique de domination, où l'ami est toujours malgré tout une sorte de rival.
Et pas dans l'amour. Idéalement, il n'y a pas une altérité possiblement surprenante, voire dominatrice.
En tout cas, pas dans les textes que Rousseau décrit. Alors, un peu quand même dans la Nouvelle-Héloïse, mais c'est rééquilibré. C'est-à-dire qu'au fond, le problème qui se pose dans la Nouvelle-Héloïse au début, c'est qu'il y a une inégalité de statut. Saint-Preux, comme Rousseau, est roturier. Julie est noble. Mais Rousseau, de façon assez habile dans son roman, compense cette inégalité par une autre, qui est que Saint-Preux, quoique roturier, va être professeur, va retrouver une forme d'ascendant, et Julie sera l'élève. Bon, et malgré tout, il y aura quand même d'autres problèmes qui se poseront, et au fond, la Nouvelle-Héloïse suggère que l'amour, quoi qu'il veuille être au-delà du social, n'y parvient pas tout à fait. Mais en même temps, Rousseau écrit la Nouvelle-Héloïse avec l'idée de dépasser les apories de la Nouvelle-Héloïse ensuite dans l'Émile. Le projet de l'Émile est annoncé dans une lettre de la fin de la Nouvelle-Héloïse, et le cinquième livre de l'Émile se conclut par un petit roman d'amour entre Émile et Sophie.
Alors, je vous propose qu'on entre vraiment dans le texte de Rousseau, ce qui nous permettra de poursuivre ces échanges, à revenir sur plusieurs points qui ont été évoqués. Dans le livre 6 des Confessions, cet ouvrage donc publié de manière posthume, Rousseau évoque son amour avec celle qu'il appelle maman, Madame de Varan. Alors, on m'a dit qu'il fallait prononcer ainsi. Je vois qu'il y a des rousseauistes qui disent encore Madame de Varan, donc je suis un peu perdue, mais je vais dire comme on m'a dit, Madame de Varan. Écoutez ce bonheur de la fréquenter au quotidien aux Charmettes, donc à la fin des années 1730, et puis vous verrez que c'est répété avec une autre femme aimée ensuite.
Ici commence le court bonheur de ma vie. Ici viennent les paisibles mais rapides moments qui m'ont donné le droit de dire que j'ai vécu. Comment ferais-je pour prolonger à mon gré ce récit si touchant et si simple, pour redire toujours les mêmes choses et n'ennuyer pas plus mes lecteurs en les répétant que je ne m'ennuyais moi-même en les recommençant sans cesse ? Encore si tout cela consistait en faits, en actions, en paroles, je pourrais le décrire et le rendre en quelque façon. Mais comment dire ce qui n'était ni dit, ni fait, ni pensé même, mais goûté, mais senti, sans que je puisse énoncer d'autre objet de mon bonheur que ce sentiment même. Je me levais avec le soleil et j'étais heureux. Je me promenais et j'étais heureux. Je voyais maman et j'étais heureux. Je la quittais et j'étais heureux. Je parcourais les bois, les coteaux, j'errais dans les vallons, je lisais, j'étais oisif. Je travaillais au jardin, je cueillais les fruits, j'aidais au ménage, et le bonheur me suivait partout. Il n'était dans aucune chose assignable, il était tout en moi-même. Il ne pouvait me quitter un seul instant.
Dans le texte où il dit qu'on ne peut pas décrire et puis il décrit quand même, hein, Rousseau, on va peut-être en parler,
c'est
mais
une prétérition.
Je propose tout de suite d'enchaîner avec un autre passage des Confessions dans le livre 8 cette fois-ci, où il prononce par deux fois le mot d'intimité et cette fois-ci il s'agit du quotidien avec son épouse Thérèse.
Je puis dire avoir goûté, durant ces 6 ou 7 ans, le plus parfait bonheur domestique que la faiblesse humaine puisse comporter. Le cœur de ma Thérèse était celui d'un ange. Notre attachement croissait avec notre intimité, et nous sentions davantage de jour en jour combien nous étions faits l'un pour l'autre. Si nos plaisirs pouvaient se décrire, ils feraient rire par leur simplicité. Nos promenades en tête-à-tête hors de la ville où je dépensais magnifiquement 8 ou 10 sols à quelques guinguettes. Nos petits soupers à la croisée de ma fenêtre, assis en vis-à-vis sur 2 petites chaises posées sur une malle qui tenait la largeur de l'embrasure. Dans cette situation, la fenêtre nous servait de table. Nous respirions l'air, nous pouvions voir les environs, les passants, et quoique au 4e étage, plonger dans la rue tout en mangeant. Qui décrira ? Qui sentira les charmes de ces repas, composés pour tout mets d'un quartier de gros pain, de quelques cerises, d'un petit morceau de fromage et d'un demi-sétier de vin que nous buvions à nous deux. Amitié, confiance, intimité, douceur d'âme, que vos assaisonnements sont délicieux. Quelquefois, nous restions là jusqu'à minuit, sans y songer, et sans nous douter de l'heure, si la vieille maman ne nous en eût avertis. Mais laissons ces détails qui paraîtront insipides ou risibles. Je l'ai toujours dit et senti, la véritable jouissance ne se décrit point.
Et Rousseau d'insister, on ne peut pas décrire, pourtant, que de pages consacrées à cette intimité amoureuse. Pourriez-vous, Christophe Martin, nous dire de quoi elle est faite, finalement, en osant décrire, si je puis dire.
Bien sûr, parce que finalement, Rousseau le fait lui-même, hein, vous l'avez souligné, le paradoxe de ces deux textes, c'est de dire qu'on ne peut pas décrire et de le faire. Hein. En rhétorique, on dit, ça s'appelle une prétérition. Pourquoi Rousseau présente-t-il les choses comme ça? Je crois parce qu'il sait très bien qu'il se heurte à des résistances, à des réticences. Normalement, on ne dit pas cela. C'est quelque chose qui échappe à l'événement. Normalement, ce qu'on a appelé l'autobiographie, qui à cette époque-là n'existe pas, c'est un genre qui n'a pas de ce nom-là, ce sont les mémoires. Et dans les mémoires, on ne raconte pas ce type d'intimité, précisément, ce bonheur fait de rien. Il y a notamment le texte sur Thérèse, hein, parce que celui sur Madame de Varan est magnifique, mais peut-être plus connu, celui sur Thérèse peut-être un peu moins. Et on dit souvent, ah oui, Thérèse épouse illettrée, qui peut-être ne méritait pas le grand homme, ou je ne sais quoi. Là, on voit cette page dit à quel point c'est une relation extrêmement belle et extrêmement forte, mais qui vaut aussi pour sa dimension négative. C'est l'antithèse de deux choses. Du faste, hein, on insiste sur la modestie de ce quotidien fait de petits repas partagés au bord de la fenêtre, petits morceaux de fromage, demi-sétier de vin. Il y a une ambiance presque qui peut évoquer certains tableaux de Chardin. Enfin, c'est tout à fait magnifique. Et donc, c'est contre le faste et aussi, bien sûr, contre la débauche libertine. C'est un grand thème rousseauiste.
Très important,
c'est
ça.
C'est très, très important.
Et assez surprenant, parce que quelqu'un qui veut tout dire...
Alors, en effet.
Et donc, a priori, y compris ce qui, peut-être dans la sexualité, est plus rugueux, dirais-je. Je dirais pas brutal, je dirais plus... moins dans une douceur correspondant simplement au petit goûter et au rituel des promenades. La sexualité n'est pas faite que de cela. Il y a des dimensions pulsionnelles qui seraient... Aujourd'hui, on trouverait ça mièvre de les taire. Mais Rousseau ne parle jamais de cela.
Disons que oui. Alors, c'est en effet, ça rejoint aussi la question qu'on évoquait tout à l'heure de la différence entre amitié et amour. Hein. C'est évidemment l'une des différences, c'est la question de la sexualité, bien sûr, hein, puisque dans La Nouvelle Héloïse, la grande problématique, c'est celle d'une conversion possible de l'amour en amitié, en amitié amoureuse, mais désexualisée. Alors, là, ce qui est très caractéristique, aussi bien pour Madame de Varan que pour Thérèse, en effet, la sexualité est mise en arrière-plan. Bon, explicitement dans le cas de Madame de Varan, où il dit qu'il c'est un amour absolu, mais sans désir sexuel. Alors évidemment, les psychanalystes sont beaucoup attachés à cela en disant, bon voilà, c'est un amour qui est marqué par une sorte d'inceste, hein, puisqu'il l'appelle maman. Donc en effet, cette désexualisation peut être reliée à ça. Mais au-delà de cette question, il me semble que, l'intimité amoureuse, ça c'est un grand thème de Rousseau, n'est pas faite que de sexualité, y compris dans l'imaginaire romanesque, hein, dans ce qui est raconté entre Julie et Saint-Preux. Il y a une dimension sexuelle absolument importante, hein, dans leur relation. Ils ont deux nuits d'amour. On pourrait dire aujourd'hui c'est pas beaucoup, mais c'est deux relations très intenses, mais où il est bien dit que leur intimité, d'abord c'est conquis de haute lutte contre des résistances externes, bien sûr. C'est difficile pour eux, c'est pas la débauche libertine où tout est facile, où c'est tout l'inverse. Et cette sexualité, elle vaut surtout pour le moment d'intimité qui la suit. C'est-à-dire que le paroxysme de la jouissance, c'est après la jouissance, en quelque sorte. Il y a de très très belles pages à ce sujet dans La Nouvelle Héloïse que Laclos dans Les Liaisons Dangereuses a bien retenu, puisque Valmont on vit exactement cette même expérience avec la présidente de Tourvel, c'est-à-dire le comble du plaisir intime, la jouissance, c'est quand précisément le bonheur qui suit l'orgasme, disons-le, est encore plus puissant que l'extase, précisément.
Et Valmont n'est Valmont... donc pas que un anti-Rousseau.
Mais non, Laclos, qui est un rousseauiste, lui a fait, on pourrait presque dire malicieusement, éprouver cette expérience typiquement rousseauiste qu'est l'au-delà de la jouissance, après la jouissance. Et il l'écrit, et Valmont l'écrit à Merteuil, et évidemment c'est une révélation absolument insupportable pour Merteuil, d'où la vengeance. Mais enfin, bon, là c'est...
Non, c'est très intéressant, parce qu'on dit depuis le début de l'émission à quel point Rousseau écrit, définit l'intimité, notamment amoureuse, contre la société, mais sa manière même d'aborder l'intimité amoureuse est contre d'autres Absolument. Visions, en particulier les courants libertins.
Ça, je crois que c'est tout à fait essentiel de le comprendre.
Alors, Quentin Biasiolo, d'abord, évidemment, précisez-nous plein de choses sur ces points, si vous le souhaitez, mais j'ai une question. Vous répondrez au moment où vous le jugerez opportun dans votre analyse, mais j'ai du mal à comprendre ce que vous avez voulu dire dans votre thèse et dans votre livre à propos de l'opposition entre Rousseau et Proust. Et il me semble que c'est le bon moment, là, pour aussi aborder ce point.
Oui. Alors, d'abord, pour revenir sur les deux textes que vous avez lus et qui ont été commentés, je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'en effet, ce qui intéresse Rousseau, c'est le moment d'après. C'est le calme et la tranquillité qui survient quand, justement, le rapport à l'autre est débarrassé de sa charge d'intranquillité, parfois de sa charge d'intranquillité jalouse, pourquoi pas, mais en tout cas de sa charge de tension. Et c'est en effet, après la nuit d'amour, que Saint-Preux, tout à coup, s'ouvre radicalement à Julie. À quoi s'ajoute que, dans les textes que vous avez lus, ce qu'il faut retenir, c'est que l'intimité pour Rousseau, c'est une mise en commun du temps. Et donc, en effet, Rousseau ne cesse de dire « j'ai peur d'ennuyer le lecteur parce que ce que je raconte, au fond... n'a pas beaucoup d'intérêt, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour qui ne le vit pas, ou qui ne l'a pas vécu, mais l'intimité, c'est une mise en commun du temps et des activités, et ça requiert donc deux choses, du temps long, de la répétition, et de la routine, mais une routine qui n'ennuie pas. Un quotidien, comme dit François Julien, dans son beau livre de l'intime, un quotidien qui ne lasse pas. Et précisément, pour venir à Rousseau et Proust, chez Proust, un quotidien qui ne lasse pas... est un oxymore, et chez Rousseau, c'est un pléonasme. C'est-à-dire qu'un véritable quotidien en présence de l'autre est quelque chose qui épanouit le sujet indéfiniment, alors même que ça paraît ridicule pour un regard extérieur.
Pensez vraiment que les aspects répétitifs des sensations chez Proust, ça s'achève dans une angoisse du déclin de la jouissance, etc., alors que tous les moments sensuels se répondent aussi chez Proust. Il y a de la répétition dans les sensations. Et puis, quand même, on peut pas uniquement penser la question par un amour de Svan, le rapport à Odette.
Non.
Où là, vraiment, il la supporte pas tout en étant fou d'elle. Il y a d'autres figures de l'amour, non, chez Proust?
Oui, mais le diptyque amoureux, La prisonnière et Albertine disparue, montre un peu cet enfer-là, sous deux axes, mais qui se répondent. Le problème premier, c'est que l'amour chez Proust est désir de possession, ce que Rousseau va totalement refuser, justement, avec son épouse ou avec Madame de Varins. L'amour n'est pas désir de possession, et c'est ça qui lui permet aussi de sortir de tous les problèmes qu'on connaît. Chez Proust, l'amour est désir de domination, désir de possession, libido dominandi, qui chez Proust évolue de façon assez spectaculaire, en libido siendi, désir de savoir et désir de pénétrer infiniment la conscience de l'autre, au fond de fusionner avec lui, mais de fusionner avec sa conscience pour savoir tout ce qui se passe en lui. Et Nicolas Grimaldi l'a formidablement bien dit, amour et jalousie sont recto et verso d'une même pièce, de sorte qu'au fond l'amour est sans cesse rongé par un désir de savoir et un désir de savoir ce que l'autre fait, ce qu'il pense, est-ce
qu'il me
ment. Donc
quand même, Svan et Odette, c'est un paradigme qui revient tout le temps. Il est terriblement jaloux, il n'arrive finalement pas à l'aimer.
Oui, mais le vrai paradigme, c'est le narrateur et Albertine.
D'accord.
Et ce diptyque-là, la prisonnière, et Albertine disparue, l'autre ne m'intéresse et ne me fascine que lorsqu'il est absent, et d'ailleurs qu'il est là, il m'ennuie. Et chez Proust, au fond, si vous voulez faire une distinction toute simple, pour résumer le rapport à l'autre chez Proust et le rapport à l'autre chez Rousseau, on dira que chez Proust, l'habitude est au singulier et avec une majuscule, l'habitude nous ennuie et sépare les individus, éloigne les sujets, et un produit des effets du temps qui en effet ronge l'individu. Alors que chez Rousseau, il faut plutôt parler de petites habitudes, vous l'avez dit, des petits rituels qui rapprochent les sujets.
Là, il n'y a pas un peu d'idéalisation ou de refus, comme sur la question, disons, de la débauche libertine, puisqu'on parlait ainsi à l'époque. Rousseau n'y va pas, ne s'intéresse pas aux aspects plus pulsionnels du sexe. Il fait comme si ça n'existait pas. Est-ce que, de la même façon, il ne recule pas face à une question, quoi, qui est légitime, qui est celle de l'ennui. Quand même, pour un pré-romantique, l'ennui est un grand thème du romantisme. Est-ce qu'à un moment donné, il s'est attelé à décrypter les figures de l'ennui, même dans l'intimité amoureuse la plus belle, Christophe Martin?
Écoutez, je crois qu'il n'a pas méconnu cela. D'ailleurs, il ne méconnaît pas, à mon sens, la sexualité. Il a fait des aveux, justement, à ce sujet. Bon, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais enfin, c'est célèbre, sur la fessée, la masturbation, etc. Donc, c'est cette dimension. Mais en ce qui concerne la relation sexuelle amoureuse, elle est quand même très présente, en particulier dans La Nouvelle Héloïse. Là, il faut bien dire que pour Madame de Varan et Thérèse, on a affaire à quelque chose de particulier. C'est un type d'amour chez Rousseau, c'est pas l'amour passion sexualisé tel qu'il est décrit dans La Nouvelle Héloïse. C'est un modèle, mais il y en a d'autres. Et ce qui est tout à fait remarquable, et là ça rejoint votre question sur l'ennui, précisément, pour le coup, Saint-Preux et Julie n'ont pas le temps de s'ennuyer, jamais, parce que leur union est interdite, d'abord, d'où la dimension épistolaire du roman. L'épistolarité, elle dit aussi cette distance, cette séparation. Donc ils ne vivent quasiment jamais ce que Rousseau décrit magnifiquement dans cette page sur Madame de Varan ou dans cette autre page sur Thérèse. C'est exactement ce dont Julie et Saint-Preux sont privés. Et Claire, la cousine de Julie, lui dit, voilà, votre amour en étant interdit, précisément, surmonte cette épreuve que personne ne surmonte, qu'aucun couple ne surmonte, qui est l'épreuve précisément du temps, donc de l'ennui et donc de la désérotisation, d'une sorte d'intensité moindre de la relation. Effectivement, le poids du quotidien, il ne le minore pas du tout, il le sait, et il épargne en quelque sorte Julie et Saint-Preux de cette épreuve par la séparation.
Alors, avant de revenir au problème de la pudeur elle-même, y a-t-il du caché encore dans cet intime, ou tout doit-il être transparent, le problème d'où nous sommes partis? Puisque vous avez spontanément évoqué ces pages, notamment celle sur la masturbation, il y a une page célèbre des Confessions au livre 3, je vous propose qu'on écoute, et jamais il ne prononce ce mot, il évoque un dangereux supplément, Rousseau, et je voudrais que vous m'aidiez à comprendre l'enjeu de cette description sans description. L'enjeu exact est-il de se flageller? Est-il de comprendre comment ça marche? De dire une sorte de honte? Je ne sais pas, c'est ma question, écoutez cette page de Rousseau.
J'étais revenu d'Italie, non tout à fait comme j'y étais allé, mais comme peut-être jamais à mon âge on en est revenu. J'en avais rapporté non ma virginité, mais mon pucelage. J'avais senti le progrès des ans. Mon tempérament inquiet s'était enfin déclaré, et sa première éruption, très involontaire, m'avait donné sur ma santé des alarmes qui peignent mieux que toute autre chose l'innocence dans laquelle j'avais vécu jusqu'alors. Bientôt rassuré, j'appris ce dangereux supplément qui trompe la nature et sauve aux jeunes gens de mon humeur beaucoup de désordres au prix de leur santé, de leur vigueur et quelquefois de leur vie. Ce vice, que la honte et la timidité trouvent si commode, a de plus un grand attrait pour les imaginations vives. C'est de disposer, pour ainsi dire, à leur gré, de tout le sexe, et de faire servir à leur plaisir la beauté qui les tente sans avoir besoin d'obtenir son aveu. Séduit par ce funeste avantage, je travaillais à détruire la bonne constitution qu'avait rétablie en moi la nature et à qui j'avais donné le temps de bien se former. Qu'on ajoute à cette disposition le local de ma situation présente, logé chez une jolie femme, caressant son image au fond de mon cœur, la voyant sans cesse dans la journée, le soir entourée d'objets qui me la rappellent, couchée dans un lit où je sais qu'elle a couché, que de stimulant.
France Culture avec Philosophie. Géraldine Mühlmann.
Et notre réalisateur Nicolas Berger fait des étincelles ce matin, vous entendez. Nous parlons de l'intimité amoureuse chez Rousseau. Je suis en compagnie de Quentin Biasiolo et de Christophe Martin. Nous venons de lire, d'entendre une page des Confessions sur le dangereux supplément qui est en fait la jouissance onaniste. Et j'entends beaucoup de honte dans ce texte, mais peut-être y a-t-il d'autres choses de la part de Rousseau. J'entends aussi l'idée de quelque chose qui contrarie la nature, mais surtout la scène du fantasme, parce que c'est de ça qu'il s'agit dans la masturbation. Et c'est une représentation, et Rousseau n'aime pas la représentation. Il préfère la présence à la représentation. Est-ce que c'est ça le fond du problème,
Christophe Martin? C'est à la fois très... Oui, c'est... Alors, il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites. Donc, la présence, c'est en effet quelque chose de fondamental, mais l'imagination est aussi une dimension absolument essentielle hein, de l'esthétique et de la pensée de Rousseau. Et c'est sans doute une des dimensions qui rend ce texte si riche, complexe. Parce que, comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, jamais il ne prononce le mot, en effet, ni onanisme, ni masturbation. Et il y a assez longtemps, Philippe Lejeune avait remarqué à quel point les aveux de Rousseau concernant la masturbation sont extraordinairement discrets et toujours sous le sceau de l'euphémisme ou de la périphrase ou du non-dit, etc.
Pour donc la transparence, voit, effectivement,
pour la transparence,
il y a un petit défaut là.
Alors, c'est là qu'on voit justement qu'il faut se défaire hein, de cette idée que Rousseau serait l'apôtre d'une transparence absolue, d'une apocalypse du secret, au sens de vraiment on révèle tout, on dévoile tout. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça, et le texte en est un très bon exemple. On voit se rejoindre les deux impératifs qui ne sont pas du tout contradictoires dans les Confessions, l'impératif du tout dire, c'est-à-dire tout dire même ce qui ne se dit pas, et on a vu, ça peut être le quotidien risible, comme le quotidien avec Thérèse, risible, dérisoire, ou l'élément obscène, ridicule, la punition des enfants, ou quelque chose d'un peu choquant à ses yeux même. Car la masturbation, comme beaucoup de ses contemporains, on connaît les textes de Tissot, hein, qui ne sont pas encore... Évidemment, il n'a pas pu les lire parce qu'ils sont juste après, mais l'ambiance quand même générale à cette époque-là, c'est de condamner la masturbation. Donc de fait, la honte, elle vient de ça aussi. Mais la honte, ce qui est suggéré aussi à demi-mot, c'est qu'au fond, cette pratique, très certainement, Rousseau ne l'a jamais quittée. Et ça, il n'en fait pas l'aveu, parce que c'est difficile, mais au fond, il n'y a pas, en un sens, il n'y a pas de pratique plus rousseauiste. Hein. Puisque c'est le pouvoir de l'imaginaire, ce qui est dit hein, dans cette formule, disposer, pour ainsi dire, à leur gré de tout leur sexe, et faire servir à leur plaisir la beauté, c'est pratiquement dans ces mêmes termes qu'il va décrire la jeunesse de la nouvelle Héloïse. C'est le même pouvoir de l'imagination de produire des êtres qui satisfassent le désir, ça peut donner aussi l'écriture d'un roman. Hein. Ça peut, c'est la même puissance hallucinatoire presque hein, qui hante l'imaginaire onaniste et qui en même temps est à la source du geste créatif.
Ça, c'est un axe fort, notamment de la lecture de Jacques Derrida, de cette page de Rousseau, qu'il propose dans De la grammatologie, l'analogie entre l'onanisme et l'écriture. Quentin Biasiolo, sur tous ces problèmes de Rousseau.
Oui, ben, ce texte est formidable. Vous dites que vous y entendez de la honte. Mais on peut aussi y entendre beaucoup de plaisir.
Oui.
Voyez
oui,
comment,
oui.
La fin du texte, la langue de Rousseau est profondément érotique, caressant son image au fond de mon cœur. Bon, c'est une formule
justement,
merveilleuse.
C'est pour ça qu'il y a de la honte, c'est parce que ça donne beaucoup de plaisir, non?
Peut-être.
Et puis par ailleurs, il y a d'autres contradictions. Il dit ça trompe la nature, donc là il condamne, c'est clair. Et puis il dit ça sauve aux jeunes gens de mon humeur beaucoup de désordre. Donc on se dit, est-ce que c'est positif ou est-ce que c'est négatif? Et après, il dit, au prix de leur santé, de leur vigueur et quelquefois de leur vie. Compliqué,
oui.
Cette phrase.
Oui, bah alors c'est qu'il y a des préjugés, en effet, médicaux qui courent jusque dans les milieux aristocratiques ou de la haute bourgeoisie, fin 19e, début 20e siècle, où en effet, les parents ou les instances éducatives sont effrayés par la masturbation et considèrent qu'en effet, ça va user la santé morale, voire physique des jeunes gens. Mais pour revenir à ce que disait mon collègue, en effet, il faut inciter lourdement sur le rôle de l'imagination. Et là, ça dépasse au fond très largement cette pratique-là onaniste qui, au fond, qu'un cas particulier d'une disposition fondamentale de Rousseau qu'on retrouve partout, à savoir que n'oublions pas que pour lui, le pays des chimères est le seul digne d'être habité. Et au fond, c'est une application tout à fait concrète et à laquelle peut-être spontanément on n'aurait pas pensé.
Oui, mais les spectacles, vous le savez mieux que moi, fantasmatiques, ceux qu'on nous sert sur les scènes de théâtre, ceux qu'on a aussi dans notre cinéma intérieur, peut-être, on parlerait comme ça aujourd'hui. C'est vrai que chez Rousseau, il y a toujours une méfiance. Peut-être qu'on la retrouve là, à propos de la scène du fantasme.
Mais vous voyez, quand vous dites qu'il préfère la présence à la représentation, moi je ne suis pas tout à fait sûr, parce que, au fond, la vie imaginaire a ces avantages-là, en court-circuitant le rapport au réel, qu'elle n'est pas susceptible de déception. À la condition qu'on s'en contente et qu'on s'en satisfasse, ce que fait Rousseau. Mais alors là, on retrouve une dialectique, et qui est la même chez Rousseau et chez Proust pour le coup, la dialectique de l'idéalisation et de la déception, si en effet il y aura déception, si on en vient à un rapport au réel affronté. Mais la pratique du fantasme, qui reste confinée dans la sphère de l'imagination du sujet, n'apportera pas de déception. Et au fond, d'ailleurs, c'est quand il a été trahi dans ses amitiés ou déçu dans ses amours, qu'il considère que ces personnages et ces héros de la Nouvelle Héloïse vont être là aussi une sorte de supplément, une sorte de relais dans son intériorité qui pourront pas le décevoir, puisqu'il est entre lui et lui-même. Et ça rejoint une conception du bonheur de la fin de la vie de Rousseau, où il considère qu'au fond, le véritable bonheur peut être trouvé qu'en soi, via les ressources de l'imagination. Il dit qu'il faut que le cœur apprenne à se nourrir de sa propre substance, donc une sorte de vie un peu autophage, où le bonheur, où le cœur se mange lui-même pour se nourrir de lui-même. Et c'est ça qui justifie la pratique de la rêverie. Et donc, les rêveries du preneur solitaire disent exactement la même chose.
On a compris tout à fait votre analyse. Alors maintenant, nous allons revenir à quelque chose qui était au fond notre point de départ, mais la circularité fait partie des enjeux. Hein. Rousseau revient toujours à un certain nombre de problèmes. On a parfois l'impression chez lui que la pudeur, l'envie de protéger, de ne pas dire, de cacher, c'est quand l'état de nature pourra s'exprimer pleinement, quand on aura enlevé les vices de la société, il n'y aura plus ces problèmes. Et puis d'un autre côté, il nous dit aussi que dans l'intime, il faut qu'il reste des lieux cachés. Alors, contradiction, complémentarité, vous allez me le dire. Voici un extrait d'abord de l'Émile ou de l'éducation, à propos de la pudeur qui est naturelle, mais...
Quoique la pudeur soit naturelle à l'espèce humaine, naturellement, les enfants n'en ont point. La pudeur ne naît qu'avec la connaissance du mal. Et comment les enfants, qui n'ont ni ne doivent avoir cette connaissance, auraient-ils le sentiment qui en est l'effet? Leur donner des leçons de pudeur et d'honnêteté, c'est leur apprendre qu'il y a des choses honteuses et déshonnêtes. C'est leur donner un désir secret de connaître ces choses-là. Tôt ou tard, ils en viennent à bout, et la première étincelle qui touche à l'imagination accélère à coup sûr l'embrasement des sens. Quiconque rougit est déjà coupable. La vraie innocence n'a honte de rien.
La vraie innocence n'a honte de rien, donc il semblerait qu'elle conduirait idéalement à dépasser les pudeurs trop excessives. Et pourtant, dans Julie ou la nouvelle Héloïse, Rousseau réhabilite la pudeur. Écoutez.
Je ne sais si je m'abuse, mais il me semble que le véritable amour est le plus chaste de tous les liens. Le cœur ne suit point les sens, il les guide. Il couvre leurs égarements d'un voile délicieux. Non, il n'y a rien d'obscène que la débauche et son grossier langage. Le véritable amour, toujours modeste, n'arrache point ses faveurs avec audace. Il les dérobe avec timidité. Le mystère, le silence, la honte craintive aiguisent et cachent ses doux transports. Sa flamme honore et purifie toutes ses caresses. La décence et l'honnêteté l'accompagnent au sein de la volupté même, et lui seul sait tout accorder au désir sans rien ôter à la pudeur. Croyez-moi, mon ami, la débauche et l'amour ne sauraient loger ensemble et ne peuvent pas même se compenser. Le cœur fait le vrai bonheur quand on s'aime, et rien n'y peut suppléer sitôt qu'on ne s'aime plus.
Que comprend Christophe Martin? Pour Rousseau, la pudeur est-elle à dépasser dans un monde idéal ou au contraire à sauvegarder à tout prix?
C'est toute la richesse de la pensée de Rousseau. Hein. Alors, beaucoup auraient dit, les contradictions. Non, je ne crois pas que ce soit des contradictions. Hein. Ce sont des éventuels paradoxes, mais peut-être que pour mieux comprendre, il faut s'intéresser à la question de la nature. Hein. La pudeur est naturelle à l'espèce humaine. Mais naturellement, les enfants n'en ont point. Comment expliquer cette énigme? Oui. En fait, on pourrait aussi faire l'analogie avec l'espèce humaine. À l'échelle humaine, à l'état de nature, bien sûr que les hommes n'avaient pas de pudeur. Ils vivaient nus, Rousseau le dit tout à fait explicitement. Donc, c'est évidemment, il y a plusieurs natures. Il y a la nature originaire et il y a ensuite, ce qui se développe, ce qui est naturel, c'est à l'adolescence. Mais évidemment, c'était pas vrai des preuves.
Oui, c'est la société qui a créé la pudeur.
On parlait tout à l'heure de la perfectibilité. Oui, en un sens. Mais c'est devenu naturel, en effet. Hein, il est complètement naturel que à l'adolescence, l'émergence du désir à laquelle Rousseau a été très attentif, il a été un des premiers. Hein, il consacre beaucoup de pages au quatrième livre d'Émile à cette question. Hein, c'est vraiment il identifie l'adolescence comme un moment clé du développement humain. Eh bien, c'est à ce moment-là, avec l'émergence du désir, qu'émerge aussi le sentiment de honte, hein, et d'une manière totalement inextricable. Et ça peut être, c'est pas forcément la mauvaise honte, hein, ce qu'il appelle parfois la mauvaise honte, c'est une honte au contraire tout à fait valorisée. Il y a une certaine ambivalence, et c'est cette honte valorisée qui est même un aiguillon du plaisir. Hein. Je crois que tout à l'heure vous le suggériez à propos de l'autre texte, vous remarquiez à quel point finalement dans la description du plaisir, la honte est une composante, hein, très paradoxalement. Donc, oui. On n'est pas dans un système où juste il y aurait la honte qui serait comme la voie de la loi, en quelque sorte, qui serait répressive par rapport au désir. Hein. Non, le désir augmente, en quelque sorte. Hein. Il s'aiguise avec... le mot aiguisé est dans le texte qu'on a entendu de la nouvelle Héloïse. Hein, la honte craintive, le mystère, le silence aiguisent les doux transports de l'amour. Et là, effectivement, c'est extraordinairement valorisé. Et au contraire, on va retrouver aussi le modèle, le contre-modèle libertin, évidemment. Ceux qui n'ont plus de honte, etc., ils perdent le plaisir pour Rousseau. C'est évident. Ils épuisent ce plaisir à force de consommer sexuellement, d'être comme ça déniaisé en quelque sorte, hein, de s'affranchir des... Là, il était aussi non seulement en contradiction avec les libertins, mais aussi avec ses anciens amis comme Diderot, qui estimait par exemple que la pudeur était une convention sociale, hein, notamment... érigé comme facteur d'aliénation pour les femmes. Hein. C'était aux femmes qu'on imposait la pudeur, mais c'était une construction sociale. Mmh. C'est au fond une analyse qu'on rencontre assez souvent au siècle des Lumières, et que Rousseau récuse totalement, même si, pour lui, c'est ça, c'est toute la difficulté, hein, c'est une institution, mais ce qu'il appelle une institution naturelle. Et on, vous voyez, on retrouve cette tension, hein, cette dialectique.
Oui, c'est à la fois naturel et pas naturel.
Exactement, c'est une seconde nature, et il faut la garder pour accroître le plaisir. Ça, je crois que c'est très important.
Et je vais vous laisser conclure sur ces points, Quentin Biasciolo.
Oui, en fait, ce qu'on peut ajouter, c'est que, alors que dans le second discours, Rousseau avait postulé qu'il existait deux sentiments naturels innés antérieurs à la raison, amour de soi et pitié, et la pitié était donc un ferment de potentielle moralité ensuite et de rapport moral à autrui, dans les mille, Rousseau modifie son système et considère qu'il n'y a plus qu'à l'état de nature qu'un seul sentiment originaire et absolument naturel, à savoir l'amour de soi et la pitié, qui sera le pivot de la moralité et de la socialité, va devenir une évolution sociale de l'amour de soi. Alors, ça dépend comment on accentue la proposition. Soit on dit que puisque c'est une évolution sociale de l'amour de soi, tout ce qui va relever de la morale ensuite, mais sera social, politique, culturel, construit. Soit, puisque c'est une évolution d'un sentiment naturel, ça conserve une forme de naturalité. Et donc, la pudeur, comme le suggère ici Rousseau, a quand même une forme de naturalité conservée, malgré le fait qu'elle soit une évolution sociale.
C'est bon, vous êtes au bout de votre analyse, merci. Et cette chanson s'appelle True Confessions, elle date de 1979, elle est chantée par les Undertones. Merci beaucoup Christophe Martin et Quentin Biasciolo, les références de vos travaux sont sur notre site. Je remercie les auditeurs qui nous ont écrit, signalé des ouvrages en lien avec notre thème de cette semaine. Notamment il y a La pudeur du philosophe allemand Max Scheler, écrit vers 1913, traduit en français chez Aubier. Il y a aussi un livre récemment paru aux éditions Labor et Fides à Genève, écrit par Laure Borgomano, qui s'intitule La réserve, pudeur, ressources et résistance par temps de crise. Je précise enfin que l'intime est le thème choisi cette année par le Festival de sciences humaines de la ville d'Alès, festival intitulé Passeurs de livres, un rendez-vous stimulant, chaleureux, qui ouvre ses portes en cette fin de semaine et pour tout le week-end. À présent, voici la chronique de Frédéric Worms qui parle de la passion de la vérité cette semaine. C'est le pourquoi du comment.
Comment se passionner pour la vérité ? tout le monde en a fait l'expérience dans nos sociétés contemporaines, en particulier, par exemple, devant des émissions de télévision ou même de radio, d'ailleurs, des plateaux, comme on dit, où s'affrontent différents discours. Il y a très souvent des discours enflammés pour des causes nobles ou moins nobles, qui certes se réclament de la vérité, qui se prétendent se fonder sur des arguments, mais qui, au fond, sont prêts, on le sent tout de suite aussi, sont prêts à sacrifier ces arguments pour des passions. Il faut absolument s'enflammer pour telle ou telle cause. Et souvent, dans un coin de ces plateaux de télévision, ou de ces débats, ou de nos dîners, ou de nos salons, dans un coin, il y a le savant discret, le savant timide, celui qui avance argument par argument, celui qui ne semble justement pas passionné, sinon par sa science, par la recherche pure de la vérité, celui qui ne s'enflamme pas, et donc celui qui pourrait bien ne pas convaincre. Il semble y avoir une sorte d'échelle inversement proportionnée entre la science, détachée des passions, détachée de toute passion, pour accéder à la vérité pure du monde, pour accéder à la démonstration patiente qui prend du temps, la recherche de la vérité, la recherche tout court, qui prend en effet du temps d'un côté, et de l'autre, la passion inflammable qui certes se réclame de la vérité, mais qui ne prend pas le temps de la démonstration. Il y a alors une dissymétrie des forces, une dissymétrie des arguments, de telle sorte que toute la passion semble du côté opposé à la vérité, pour certains, et pour d'autres, la vérité semble du côté totalement opposé aux passions. On sait pourtant que la vérité est passionnante, que la vérité suscite un désir, ce désir qu'on appelle la curiosité, le désir de savoir ce qu'il en est, ce désir de savoir qui est la première phrase de la métaphysique d'Aristote, les hommes désirent. Savoir. Le savoir n'est pas seulement, en effet, un objet neutre, ça n'est même pas seulement un objet de vie et de mort en général, parce qu'il nous permet de survivre et nous empêche de mourir. N'oublions jamais que la science est nécessaire aux vivants, mais le savoir est aussi un objet de désir, un objet de passion pour les êtres humains. Il contente une partie de nous-mêmes. Évidemment, chez Aristote, qui dit « les hommes désirent savoir », il a une vision finaliste de la vie, et il a une vision hiérarchisée du vivant humain. Le vivant humain est fait de plusieurs parties, un peu comme chez Platon, où il y a le ventre, le cœur et le cerveau ou la tête, et chacune a son objet d'amour, en quelque sorte. L'amour de la vérité est lié à la constitution même de notre être. Il faut donc cette théorie de l'âme pour dire que la vérité est désirable. Mais il peut en être tout à fait autrement. On se passionne pour la vérité, d'abord aussi parce qu'on est contre, au fond, les discours qui utilise les passions au service de du mensonge et de la haine. Oui, il faut admettre que la vérité a plusieurs adversaires. Il n'y a pas seulement l'erreur, mais il y a aussi le mensonge et parfois le mensonge délibéré. Il faut donc se passionner aussi négativement. Quoi qu'on en ait, la vérité semble intégralement positive, mais elle passe aussi par la réfutation des mensonges. Il faut donc défendre la vérité avec passion. Il faut être un passionné de la vérité avec cette passion paradoxale de la raison qui nous dit « prenons le temps de la science. Oui, vous avez des savants qui vous disent « je ne sais pas tout », comme Socrate dans son Apologie, comme les vrais médecins pendant la pandémie, qui disaient « voici ce que je sais, voici ce que je ne sais pas, je suis passionné par la recherche de la vérité, celle que j'ai aujourd'hui et celle que nous devons avoir demain ».
Merci Frédéric Worms. Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast sur l'application Radio France ou sur franceculture.fr. Cette émission a été réalisée par Nicolas Berger avec à la technique Ruben Carmazine. Elle a été préparée en particulier par Carla Michel et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Anna Feulpin, Chaïma Giboire, Armance Bourquin et Nassim El-Kabli. Vous êtes bien sur France Culture, vive la curiosité.